Bienvenue à Extravagance. Le message que vous allez écouter vous est présenté par le pasteur Bruno Picard. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente écoute.
Ok, donc rapidement, on a commencé une série qui a pour thème régner avec Christ dans cette vie. Non pas seulement au ciel. Si tu es chrétien, si tu as donné ton cœur à Jésus, je te garantis que tu vas régner avec Christ. Mais Christ, dans sa grâce et son amour et sa bonté et sa générosité, veut que les hommes et les femmes qui le suivent règnent avec lui sur terre. On a vu ensemble des passages, je vais relire quelques passages avec vous, quelques passages importants qui sont une fondation. Ésaïe 9, 6 à 7, qui dit sur vos écrans, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donnez à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. » Qu'est-ce que fait le zèle de l'Éternel des armées? Qu'est-ce que fait la passion de Dieu? Comment on peut savoir si la passion de Dieu est dans notre vie ou pas? Le zèle de l'Éternel des armées installe le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu est caractérisé par plusieurs choses, mais dans ce passage-là, il nous parle d'une paix. Il nous parle d'une domination, il nous parle du droit et de la justice. Quand Dieu règne dans une vie, l'atmosphère de la vie est manifestement remplie de sa paix, de sa joie, de son royaume, de son autorité. Quand Dieu ne règne pas, le chaos règne, la confusion règne, le doute règne, la peur règne. Mais quand Dieu vient dans une vie, il installe sa paix. Il installe la croissance. Dieu dit que le trône de Dieu, le royaume de Dieu que Jésus installe, va en s'affermissant, en grandissant. Vous lirez chez vous Ésaïe 9, mais il donne, il dit ici, à l'empire de Christ son accroissement. En d'autres termes, quand tu deviens chrétien, de plus en plus, l'autorité de Christ dans ta vie doit augmenter. Si l'autorité de Christ dans ma vie n'augmente pas, c'est que je ne suis pas en phase avec Dieu. En d'autres termes, un chrétien qui a 10 ans de vie chrétienne devrait manifester plus d'autorité qu'un chrétien qui a une semaine de vie chrétienne. Il y a de l'accroissement dans l'empire, ou si vous préférez, le royaume que Dieu me donne. Et j'ai dit une phrase très forte la semaine dernière. Je vous ai expliqué rapidement que Christ est né pour régner. Il n'est pas né pour être un bon philosophe, il n'est pas né pour être une statue sur une croix, il n'est pas né pour être un petit garçon dans une étable le jour de Noël, il n'est pas né pour appeler le petit Jésus. Jésus-Christ est né pour régner. Et que le monde le veuille ou pas, et que Satan le veuille ou pas, ou que les philosophes le veuillent ou pas, Jésus-Christ règnera en maître pour l'éternité. Et la Bible dit que tout genou fléchira et que toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Et donc lorsqu'on commence à comprendre ça et qu'on devient chrétien, on devient vivant et on réalise une vérité spirituelle. Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Roi, est né pour régner. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ fait en sorte que lorsque toi et moi, nous donnons notre cœur à Jésus, nous sommes nés de nouveau pour régner avec lui. Ça, c'est une excellente nouvelle. Parce qu'au lieu d'être un chrétien prisonnier de tes circonstances, tu deviens un pionnier de ton histoire avec Dieu. Tu établis les standards avec Dieu. Ce n'est pas le diable qui décide, c'est toi avec Dieu qui formes la majorité. Et si Dieu parle, tu parles. Et quand tu parles, le diable doit obéir. Jésus est en train de restaurer son royaume dans son Église. Romains 5, 17 nous dit, « Car si par la faute commise par un seul homme, la mort a régné à cause de ce seul homme, à bien plus forte raison, ceux qui reçoivent les trésors surabondants de la grâce et le don de la justification règneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul ?» Je fais une remarque encore soit importante comme, pour introduire ce message. Je ne peux pas régner si je ne suis pas en Christ. C'est un point fondamental. Mais dès l'instant où je suis en Christ, je peux régner. C'est par Christ seul que je règne. D'où l'importance d'avoir une intimité avec Jésus. Cette semaine, je relisais le livre des Actes. Et j'ai relu cette histoire où des hommes et des femmes, enfin des hommes en tout cas, essayent d'imiter Paul. Et ils vont prier pour des gens possédés. Et tout d'un coup, les démons parlent avec eux et disent « Jésus, je connais. Et Paul, je connais. Mais toi, qui es-tu ? » Et tout d'un coup, les hommes possédés se sont jetés sur les gars et les ont tabassés. Et ils sont rentrés chez eux tout nus, brisés, blessés, littéralement dans leur orgueil et dans leur corps. Parce qu'ils n'étaient pas connus ni devant le trône de Dieu, ni en enfer. Moi, je veux être connu devant le trône de Dieu et je veux être reconnu en enfer. Quand je me lève le matin, le diable tremble. Parce que je règne avec Jésus-Christ. Non pas « je suis ». Vous savez, cette semaine, j'ai relu encore plein de passages magnifiques. Ce n'est pas Christ qui vit quand je disparais. Ce n'est pas Christ à ma place. C'est Christ en moi. Christ veut collaborer avec toi pour se manifester. Il aurait pu choisir de se manifester sans l'aide d'aucun homme, mais il a choisi de vivre en toi l'espérance de la gloire. Donc quand tu es né de nouveau, tu es né pour régner. Regarde ton voisin de lui, tu es né pour régner avec Christ. Ok ? On a vu ensemble Apocalypse 2 et 3, on ne va pas relire, mais dans Apocalypse 3, il disait, Jésus disait au vainqueur, à celui qui vaincra, à celui qui va vaincre, je le ferai asseoir avec moi sur le trône de mon Père, sur mon trône. Il parle à des vainqueurs. Écoute-moi, mon ami, quand Jésus te parle, il ne parle pas à des perdants, il parle à des vainqueurs. Toi, tu te vois comme un perdant, mais Jésus te voit comme un vainqueur. Écoute bien ça. Dès l'instant où tu dis que tu n'es pas capable, que tu es nul, que tu es... n'a aucune valeur, tu es en train de mépriser l'opinion que Dieu a de toi. Chaque personne dans ce lieu ce soir qui est née de nouveau et chaque personne dans ce lieu ce soir qui n'est pas née de nouveau, vous avez la même valeur. Vous avez la valeur du sang de Jésus-Christ. Parce que Jésus est mort pour chacun de nous. C'est la valeur que tu as, la valeur du sang de l'agneau. Donc, cesse de dire que tu es un perdant quand Christ te voit comme un vainqueur. Et le but de cette série est de nous faire réfléchir, de nous faire plonger les regards dans la parole de Dieu afin d'avoir une révélation claire et précise de qui nous sommes en Christ, afin de pouvoir régner avec Jésus sur la terre et de manifester la vie que Dieu a pour nous, afin que des centaines et des milliers d'hommes et de femmes puissent venir à goûter à la présence et la puissance de Dieu que nous servons. On a vu ensemble que Jésus-Christ a dû accepter le processus. Jésus est né dans une étable, il est né parmi les animaux dans le foin, mais il a fini son processus assis à la droite du Père. Il y a un processus entre l'étable et le trône. Même si je commence ma vie chrétienne dans l'esprit, assis en Christ, il faut que je passe des étapes différentes pour manifester l'autorité et la réalité qui est la mienne. Je suis une nouvelle créature. Je suis en Christ, j'ai l'autorité. Et donc on verra cette série, comment faire pour régner avec Christ? Par où on commence? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on change? C'est bien beau de dire régnons avec Christ, mais comment est-ce qu'on fait de façon pragmatique? Et vous me connaissez, j'aime les choses pratiques. Qu'est-ce qu'on fait pour régner avec Christ? On prie pendant 40 ans, on jeûne pendant 40 ans, où il y a des choses à faire. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des choses à faire. Et si elles sont à faire, c'est qu'elles sont faisables. La vraie question, c'est est-ce que nous sommes volontaires pour les faire? Alors accroche ta ceinture ce soir, ça va chauffer. Écoute bien ça, Dieu n'est pas à la recherche de ma zone de confort pour moi. Il est à la recherche de mon caractère. Et j'ai écrit tout à l'heure sur Facebook, j'ai écrit une phrase très simple pour moi. Dieu, le plan, écoutez bien ça, le plan parfait de Dieu ne se réalise pas dans la vie de celui qui aime le confort de son canapé, même s'il écoute des bons messages. Les gens pensent que je m'assois dans mon canapé, j'écoute des bons messages et hallelujah, je vais devenir en une seconde ce que Dieu veut que je devienne. Non. Pour régner avec Christ, il y a un prix à payer et pour régner avec Christ, il y a des choses à faire. Regarde ton voisin, dis-lui, si Christ ne règne pas au travers de toi, là où tu vis, c'est exactement comme si tu invitais Satan à régner là où tu vis. Je vais le redire. Si là où je me trouve, je ne laisse pas Christ régner au travers de moi, je crée un vide spirituel dans lequel Satan s'engouffre et vient régner. Quand j'arrive dans un lieu, je dois prendre la place que Dieu veut que je prenne. Et j'installe son royaume et je fais fuir les ténèbres et je repousse les ténèbres et Dieu s'installe et la vie prend place. Mais si je laisse le royaume étouffé en moi, je ne règne pas avec Christ là où je suis. Le diable aura tous les droits légaux de s'installer là où il vit. Quand j'arrive en tant que chrétien, quand tu arrives en tant que chrétien, l'atmosphère doit changer. Quand tu arrives dans une maison, dans un endroit, dans une prison, sur un terrain, n'importe où tu es, tu dois être capable, je dois apprendre, moi le premier, à libérer l'atmosphère du ciel, que ton royaume vienne sur la terre comme au ciel, que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Alors, on doit apprendre à manifester le règne de Dieu. Et on va voir ensemble durant cette série, magnifique série, j'espère pour vous, moi ça me bénit premièrement. On va apprendre d'un homme qui s'appelle David. Et David, et j'ai simplifié son cheminement, d'accord, mais David a vécu quatre grandes étapes. Premièrement, Bethléem. Deuxièmement, Adullam. Troisièmement, Hébron. Et enfin, Sion. Et Sion, dans la parole de Dieu, c'est le symbole d'une église qui règne. Une église qui règne est composée d'hommes et de femmes qui règnent. Une église qui règne n'est pas composée d'un pasteur qui règne et le reste de l'église, non. Une église qui règne, c'est tout un peuple qui règne. Là où nous sommes, le matin. Et on va voir ce soir que c'est pas toujours facile de régner. On va commencer par Bethléem. Tout le monde dit Bethléem. Et Bethléem, on l'a vu ensemble la dernière fois, j'ai fini par ce point-là. Bethléem, c'est le lieu qui symbolise être fidèle dans les petites choses, ou être fidèle dans le monde naturel. Tout le monde dit le monde naturel. Être fidèle dans les petites choses, les choses que nous croyons être insignifiantes, peu importantes. On a vu ensemble comment Dieu était vraiment attaché à cela. J'ai partagé un point qui disait de prendre son joug. Vous vous souvenez, on a lu ensemble Matthieu 11, 29. Et j'ai commencé en disant que pour régner avec Christ, il fallait réellement prendre son joug et son fardeau. Il fallait réellement accepter ses directives, son cœur, les battements de son cœur. Tant que je ne suis pas connecté à Christ, je ne peux pas régner avec lui. Mais quand je prends son joug, quand je prends son fardeau, j'ai du repos. Et on a vu ensemble que régner avec Christ, c'est marcher dans le repos. Quand tu règnes avec Dieu, tu n'as pas besoin de t'inquiéter du lendemain. Quand tu règnes avec Dieu, tu parles de la part de Dieu. Quand tu règnes avec Dieu, tu changes l'atmosphère spirituelle. Et donc, tu vis dans un repos. Et je vous avoue, depuis quelque temps, je commence à sentir ça, je commence à vivre ça. Avant, je me serais affolé pour plein de choses. Maintenant, je dis, Seigneur, c'est entre tes mains, c'est ton royaume, ton règne qui vient dans ma vie. Je te fais confiance, on va aller avec toi. Alléluia. Et mon cœur est rempli de sa joie. Alors, on va voir ensemble ce soir comment faire pour régner. On a vu ensemble que le Saint-Esprit ne donne jamais de promotion spirituelle à celui qui entend sa parole seulement, mais il donne une promotion spirituelle à celui qui met sa parole en pratique. On a vu ensemble que Dieu ne bénit pas celui qui entend sa parole seulement. Il bénit celui ou celle qui met en pratique sa parole. Et vous lirez chez vous dans Jacques chapitre 1, 23-25. Vous allez voir aussi dans ce passage que c'est lorsque tu pratiques la parole de Dieu. Écoute bien, c'est important l'Église comme fondement. Lorsque tu pratiques la parole de Dieu, tu découvres qui tu es en Christ. Mais dès l'instant où tu cesses de pratiquer la parole de Dieu, tu oublies qui tu es en Christ. C'est pour cela que des dizaines de chrétiens dans le monde, des dizaines de chrétiens viennent à l'église, rentrent chez eux le soir, reviennent le dimanche suivant, la vie ne change pas, ils ne savent toujours pas qu'ils sont en Christ parce qu'ils ne pratiquent pas la parole. Mais quand tu pratiques la parole, tu découvres qui tu es. Pourquoi ? Christ est la parole, oui ou non ? Quand je fais la parole, je deviens comme Christ. Simple, mais très profond. Donc, Bethléem, être fidèle dans le monde naturel. Le vrai succès selon Dieu, ce n'est pas d'avoir de grands miracles, une grande maison, un grand bateau. Hein. Le vrai succès, c'est être transformé à l'image de Christ. Dieu cherche des hommes et des femmes sur qui il peut compter. Et ce soir, je vais vous montrer quelques exemples simples. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'on vive fidèle dans le monde naturel ? Dieu cherche des hommes et des femmes sur lesquels il peut compter. Et pour voir s'il peut compter sur toi, il va te confier des choses naturelles. Dieu ne va pas te confier des vérités spirituelles avant de t'avoir testé avec des vérités naturelles. Et c'est pour cela que beaucoup de chrétiens, malheureusement, n'arrivent pas à grandir en puissance, en autorité, en domination spirituelle, à avoir plus d'onction, plus d'autorité, parce que quelque part dans leur vie, ils ont méprisé, négligé les choses naturelles. Alors ce soir, on va voir deux points ensemble, peut-être trois. Deux points simples. Regarde ton voisin et dit « régner » avec Christ, c'est interdire à l'ego de régner. Régner avec Christ, c'est interdire à mon ego de régner. Si mon ego règne, Christ ne règne pas. Il ne peut pas y avoir deux rois sur le même trône. L'ego, ma personne, le moi, et Christ. C'est ou lui ou moi. Et c'est extrêmement important de comprendre ça dans votre parole, ce soir la parole de Dieu, dans la livre des Proverbes, Proverbes 16, 32. Sur vos écrans, je ne sais pas si vous pouvez la voir, Proverbes 16, 32. « Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. » Ouf, ça seulement déjà, je pleurais. « Et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend les villes. » Celui qui est maître de lui-même vaut mieux que celui qui prend des villes. Et donc ce soir, Dieu veut nous parler de ce règne avec Christ en commençant par la chose suivante. Si tu veux régner avec Christ, il faut que tu règnes sur ton ego. Il faut que ton homme spirituel règne sur ton homme charnel. Il faut interdire à ton ego de régner. Il faut que tu sois maître de toi-même. Il faut que tu vives une vie où tu comprennes que c'est le Christ qui est en toi, qui doit prendre possession et position dans ta vie. Et c'est extrêmement important, mes chers amis, parce que bien souvent, nous manquons de self-control. Nous n'arrivons pas à nous maîtriser. Nous n'arrivons pas à prendre une vie de discipline. Vous savez, la discipline, c'est les jambes du rêve. La discipline sont les jambes du rêve. Le rêve avance avec la discipline. « Oui, Seigneur, je veux de l'onction, mais tu ne te lèves pas le matin. » Ou « Seigneur, je veux chanter dans le monde entier, mais tu n'arrives même pas à prendre des cours de chant. Seigneur, je veux être milliardaire, je ne donne même pas ta dîme et ton offrande. » Non, il faut commencer par la discipline, il faut être maître de son ego. Ce n'est pas ce que je veux quand je veux, c'est ce que tu veux quand il veut, où il veut. Lorsque je me soumets à la seigneurie de Christ, je suis qualifié pour exercer son autorité. Si je ne suis pas capable... Écoutez bien, Église, si je ne suis pas capable de me maîtriser par la puissance du Saint-Esprit, comment voulez-vous que je règne avec Christ? Si chaque mois, mon budget vole en éclats, si je n'arrive pas à me contrôler, si j'ai des dépenses impulsives, comment voulez-vous que je construise son royaume? Si tous les semaines ou tous les jours, je n'arrive pas à être un homme selon le cœur de Dieu, à prier, à faire les choses simples que Dieu me demande de faire dans sa parole, comment voulez-vous que je puisse régner avec Christ? Alors Dieu, ce soir, vous dit, hé, maîtrise-toi. Écoutez ça en Galates 5, 16. Galates 5, 16. Il dit ici, Paul écrit, il dit, « Je vous dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Le mot « désir de la chair » signifie « ne laisse pas ton ego » diriger ta vie. Tu sais, l'ego, il parle comme ça. J'ai pas envie. J'aime pas qu'on m'oblige. Je suis pas sous la loi. Je suis libre. Je fais ce que je veux. Ça, c'est de l'ego. L'homme spirituel dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur? Qu'y a-t-il de meilleur pour les autres? Comment pourrais-je construire les autres? Comment pourrais-je servir les autres? Comment pourrais-je progresser pour les autres? L'ego dit, je fais ce que je veux, tout le monde me sert, tout le monde est à ma botte, je suis le leader, je suis le chef, tu me suis. L'homme spirituel dit, Seigneur, je veux les servir, je veux les aimer, je veux être leur paillasson. Rick Warren a dit un truc de très fort, il a dit, le vrai test d'un serviteur, c'est de voir comment il réagit quand on le traite comme un serviteur. Marchez selon l'esprit. Laissez l'homme spirituel régner sur ton ego. Ne laisse pas ton ego se manifester. Paul dit dans 1 Corinthiens 9, 27. Il nous dit, et ce qui m'encourage, c'est que Paul avait les mêmes problèmes que vous et moi. Il dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti ou sous contrôle de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. La plupart des chrétiens arrêtent net la manifestation du royaume dans leur vie parce qu'ils ne savent pas se discipliner. Ils ne savent pas traiter, s'il le faut, durement leur corps. Ils ne savent pas vivre une vie selon les principes de Dieu. Et je vous encourage ce soir, Église, je vais vous libérer par sa grâce. On va prier ensemble durant les semaines qui vont venir. Vous allez devoir faire un choix. Laissez la chair vous diriger ou laissez l'esprit vous diriger. Le vrai combat, c'est la volonté. Je décide de marcher dans l'alliance ou je décide de marcher selon la chair. Et je vous rassure, moi le premier, j'ai mes propres questions, mes propres conflits, mes propres doutes. J'ai chaque jour le défi de dire, est-ce que je vais être un homme selon Dieu ou est-ce que je vais faire ce que j'ai envie de faire. Il y a des fois, je vous garantis, je me réveille le matin, je me dis, mais j'ai pas envie d'être pasteur là, j'ai pas envie qu'on m'appelle, j'ai pas envie qu'on me dérange, j'ai envie de rien, j'ai envie de pouvoir dire, je fais ce que je veux, quand je veux. Et ça vient et ça me possède presque. Et il faut que je traite durement mon corps. Il faut que je me force à dire, je refuse de tomber là-dedans, je choisis de garder mon alliance avec Dieu. Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et tu traverses ton Gethsemane, tu traverses ton moment difficile et tu dis, non Seigneur, je veux faire ton plan. Je ne laisserai pas mon ego régner, je veux que tu règnes. C'est un choix que tout le monde doit faire. Certains laissent leur corps régner. Il y a des gens qui n'arrivent pas à être gentils avant la tasse du café du matin. Il y a des hommes et des femmes qui n'arrivent pas à vaincre la cigarette ou l'alcool. Cela signifie que c'est votre corps qui dirige. Certains n'arrivent pas à aimer leur femme parce que leur compte en banque est dans le rouge. Mais si le compte va bien, ils aiment leur femme. Si c'est un problème financier, ils prennent des distances, ils ne sont pas bien, ils s'enferment dans leur chambre. Je ne prie plus, je ne te parle plus parce que les comptes vont. Et si le compte va bien, oh chérie, je t'aime, on fait la fête. Mais ça ne va pas ou quoi? Traite ton ego. C'est pas l'ego qui dirige, c'est Christ. Ça n'arrive pas, il me parle, il me dit, pasteur, j'arrive pas. Quand je vois un chocolat, je prends. C'est comme ça, je suis comme ça, c'est pas ma faute. Ah non, c'est la mienne. Et là, je lui dis, mais non, d'accord, t'es comme ça. Ça, c'était avant que tu connaisses Christ. Mais là, tu es né de nouveau. T'es plus l'ancien toi, t'es le nouveau toi. Donc si tu veux régner avec Christ, laisse le nouveau toi se manifester. Freine le chocolat. Freine le café. Freine l'alcool, tout le reste. Freine. Paul dit, je traite mon corps. L'ego ne va pas régner. Oui ou non? Le deuxième point qui sera important dans cette quête pour savoir comment on va régner avec Christ, c'est règne dans ta famille. Et là, je vous garantis, régner dans sa famille est capital, primordial, vital. Chaque membre de la famille que tu composes doit apprendre à régner, écoutez bien ça, en fonction de sa position en Christ. Par exemple, Marie, aimez vos femmes et offrez-vous en sacrifice comme Christ a aimé l'Église et s'est offert en sacrifice pour elle. Un mari qui ne sait pas aimer sa femme et s'offrir en sacrifice ne règne pas dans sa famille. Femmes, vous lirez chez vous, Éphésiens 5, 25 pour ce verset-là. Femmes, soyez soumises à vos maris. Ce n'est pas un gros mot. Femmes, soyez soumises à vos maris. En particulier à vos maris, et cela par égard pour le Seigneur. Femmes, soyez soumises à vos maris comme vous l'êtes pour le Seigneur. Si la femme ne sait pas marcher dans la soumission selon Christ envers son mari, elle ne sait pas régner dans sa famille. Et tout d'un coup, les enfants qui sont là, qui regardent les parents, disent « Lui, il ne sait pas diriger, elle ne sait pas soumettre, ils ne communiquent pas ensemble, c'est n'importe quoi, je vais faire ce que je veux et l'enfant ne pourra pas régner avec Christ parce que ni son père ni sa mère savent régner avec Christ. » Si vous êtes monoparental, gloire à Dieu, je dirais parfois, t'as que toi à gérer. Come on. Et tu règnes. Tu fais Seigneur, ok, mon mari n'est pas là, ou il est parti, ou j'attends le prochain avec impatience. Ok, bonne prière. Mais quand tu pries, Seigneur, pour l'instant, je vais être une maman selon Dieu. Une femme qui sera soumise à mon Seigneur Jésus-Christ. Je vais manifester le royaume envers mes enfants. Et vous les enfants, manifestez le royaume. Comment régner dans la famille? Frères et sœurs, jeunes, enfants, honorez vos parents. Sinon, un enfant n'honore pas ses parents, il ne règne pas. Il ne règne pas avec Christ. Et donc, quand une église vient composée de différentes familles, dans laquelle il n'y a pas de règne de Dieu, le mari ne règne pas, la maman ne règne pas, les enfants ne règnent pas, personne ne règne, ce n'est pas un règne, c'est la division, c'est le chaos. Et l'église vient le dimanche et on essaye de régner en Christ, Jésus vivant, ouais, on va régner, ouais, on prend la réunion, ouais. Là tu fais, ma femme, mon fils, mon enfant, ma maison est chaotique, c'est normal. Là tu t'arrêtes un instant, tu fais non, on commence à zéro. Chérie, règne comme un mari, moi je régnerai comme une épouse. Et tous les deux, on régnera comme des parents. Éphésiens 6, 4 nous dit, « Vous, pères, n'exaspérez pas vos enfants, mais élevez-les et en les éduquant et en les conseillant d'une manière conforme à la volonté de Dieu. » Quand tu es parent, pour régner avec tes enfants, il faut que tu manifestes une éducation conforme à la parole de Dieu. Vous savez, la plupart des parents laissent la télévision éduquer leurs enfants. Mais si les parents règnent, écoutez bien, c'est important. Si les parents règnent, alors les enfants ont un exemple à suivre. Si le mari règne, la femme, l'épouse, peut apprendre à régner. Elle se soumet. Non pas, c'est pas oui, 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 chef, oui, monsieur, oui, mari, oh, alléluia, oui, mari, oui, ah, d'accord, non, aïe, aïe, oui. Non, c'est pas ça du tout. Ça n'a rien à voir que ça. C'est chérie, on va parler ensemble, une décision à prendre. À la fin de la discussion, elle dit, chérie, tu tranches. Tu es l'homme, tu vas rendre compte à Dieu, tu as intérêt à prier. Si tu te plantes, tu auras affaire à Dieu. Moi, je t'aime. Ciao. Quand Elodie m'a fait ça deux, trois fois, elle n'était pas d'accord avec moi. Elle dit, chérie, je ne suis pas d'accord avec toi. Tu veux poursuivre, tu auras des comptes à rendre à Dieu. Au revoir. Tu vois quand elle dit ça? Tout d'un coup, dans mon cœur, il y a une tornade. J'ai fait, c'est bon, j'ai compris, je vais prier plus. Et je ressors et Dieu me donne la réponse. On a appris à régner ensemble. Nos filles apprennent en ce moment à régner dans leur chambre, sur leurs affaires, leur argent de poche. Elles savent. Mes filles ne rentrent pas dans ma chambre comme ça avec Elodie. Voilà, je rentre quand je veux. Elles doivent cogner avant de rentrer parce que c'est notre chambre. Je ne rentre pas dans la chambre de mes filles sans leur demander la permission. Je cogne avant. Parce que je leur montre le respect des frontières que Dieu nous donne. Chacun a une zone de responsabilité. On doit régner là où Dieu nous place. Je suis responsable. C'est quoi régner dans sa famille? C'est être responsable de l'atmosphère qui se manifeste. Régner, c'est la paix, la joie, la puissance de Dieu. Quand je règne en tant que mari, j'installe le royaume de Dieu au travers de ma fonction. Quand je règne en tant que maman ou épouse, j'installe le règne de Dieu comme une épouse. Et si tout le monde fait ça, la famille règne. Je vous garantis que l'atmosphère spirituelle change. Je vous garantis que lorsque tu parles, il y a une unité entre toi et ton épouse ou tes enfants. Il n'y a pas de chaos. Il y a des problèmes, il y a des incompréhensions. Oui, c'est ça, c'est sûr. Mais le règne de Dieu est installé. Vous avez vu qu'on commence par Bethléem. Là, ça, c'est que Bethléem. Hein? Et encore as-tu là. C'est que Bethléem, c'est juste être fidèle dans le monde naturel. On ne peut pas demander au roi des rois de déverser sur nous de la puissance spirituelle, l'autorité spirituelle, comme ça, juste par plaisir. Il veut d'abord savoir si nous sommes capables d'être fidèles dans les choses naturelles. Je ne parle même pas de l'argent. Lisez avec moi dans 1 Timothée 3,5, s'il vous plaît. 1 Timothée 3,5 nous dit « Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu ?» Souvent, les gens prennent ce passage-là pour les pasteurs, et c'est vrai. Le contexte ici, c'est les leaders. Le principe est le suivant. Tu ne peux pas demander à Dieu de te confier des vérités spirituelles, un impact spirituel, si tu n'arrives même pas à faire ton lit, à marcher et faire la vaisselle, à payer tes dettes, à faire le ménage. Vaincre dans le monde naturel. On va finir ce soir avec cette histoire. Je ne pourrai pas tout lire, je ne vais pas tout dire. Je vais aller progressivement avec vous. Mais écoutez bien ça. David est un homme extraordinaire. David, comprenez qu'il devait être fidèle dans sa vie. Point la ligne. Vous savez, je priais aujourd'hui et je disais, Seigneur... Non, c'était hier matin. Je disais, Seigneur, tu sais, parfois je me sens débordé par les événements, débordé par ce que j'ai à faire. Voici sa réponse. Il m'a dit, si tu es débordé avec les responsabilités d'aujourd'hui, ne me demande pas d'en rajouter. Ne me demande pas d'accroître tes cordages. Ne me demande pas plus d'onction. Ne me demande pas plus de gens si tu n'arrives toujours pas aujourd'hui à gérer ta vie. De gloire en gloire. Aujourd'hui, fais l'état des lieux de ta vie, de ton couple, de ta famille, tes enfants, tes comptes, et commence radicalement à travailler jour après jour en étant fidèle. Une petite chose après une petite chose, avec une petite chose après une petite chose, et tu auras de grandes choses. Et tout d'un coup, Dieu va faire comme avec David, il va arriver et il va t'inonder de sa grâce. Écoutez ça dans 1 Samuel 16:1. Éternel dit à Samuel, 1 Samuel 16:1. Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, le Bethléemite. Bethléemite, c'est la ville de Bethléem, comme par hasard. Car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Dieu le dit à Samuel, Samuel le prophète, va à Bethléem, là où tout commence, là où il y a le monde naturel, les choses, les petites choses du monde naturel. Va trouver l'homme que j'ai choisi pour remplacer Saül, je l'ai annulé, c'est bon, mais je vais préparer un homme selon mon cœur. Dans le verset 6 qui suit, verset 6, la parole de Dieu dit, lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Éliab, Samuel dit, waouh, c'est Éliab, certainement loin de l'Éternel, est ici devant lui, c'est lui le gars. Verset 7. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Verset 8. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Verset 9. Isaïe fit passer Shama et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. J'imagine Samuel, prophète, dit, mince, je me suis trompé. C'était pas Isaïe, c'était un autre gars, mince. Isaïe continue, il dit, est-ce que tu as là tous tes fils? Parce que le problème, c'est que Isaïe et Samuel, ne considéraient pas ceux qui les entouraient comme Dieu les considère. La plupart des gens autour de nous considèrent, pour choisir quelqu'un, on regarde le talent. Ah, le gars, il est beau, il est talentueux, parfait, on le choisit. Ouais, il chante bien, ouais, il est riche, il est intelligent. Et c'est, ça, c'est bien, c'est très très bien. Mais Dieu ne regarde pas ça. Il va tester le cœur en se disant, est-ce qu'il a été fidèle? Écoutez bien la question que Dieu pose. Est-ce que je peux compter sur lui? Est-ce que je peux compter sur lui? Ok, le gars est talentueux, le gars est fort, ok, c'est bon, okay, il est beau, il est grand, ok. Est-ce que je peux compter sur lui? Et une phrase gratuite pour les jeunes dames, même les moins jeunes, qui cherchent un mari. La vraie question n'est pas de savoir s'il est beau ou grand. Tant mieux s'il est beau et grand avec les poils brushingés. C'est super. Je suis pour. Quand il plonge, il nage, ok, ok, c'est bon. Il sort de l'eau, il n'est pas mouillé. C'est super ça. Mais, est-ce que tu pourras compter sur lui? Est-ce qu'il te rapproche de Dieu? Est-ce qu'il te protège dans la présence de Dieu? Parce que sinon, c'est ce qu'on appelle communément un sirop. En créole, c'est un sirop. Est-ce que tu peux compter sur lui? On rigole, mais ce soir, la question pour ce message est la suivante. À Bethléem, la question que Dieu pose est la suivante. Est-ce que je peux compter sur toi? Et la réponse n'est pas donnée par notre bouche. La réponse est révélé par notre fidélité dans les petites choses. Je m'engage à faire le ménage, je m'engage à faire telle chose et il me regarde. Un an passe, 2 ans passent, 3 ans passent. Et pour David, 17 ans sont passés. 17 ans. Bethléem, c'est le lieu dans lequel Dieu ordonne à Samuel de trouver son David. Dans Bethléem, les Davids se révèlent. À Bethléem, ce sont les hommes et les femmes qui sont remplis de Dieu et de cœur pur. Vous savez, vous lirez chez vous 11 et 13, mais dans verset 13, Samuel trouve enfin David qui était caché dans le pâturage en train de faire paître le troupeau. Et en verset 13, Samuel prend la corne d'huile, oignit au milieu de ses frères. Écoutez bien ça. Hein. Il oint David pour roi au milieu de ses frères à Bethléem. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Mais David n'est pas devenu roi le jour même. Il a été oint pour roi, mais il est devenu roi 17 ans après. Et vous verrez avec moi tout au long de la saison, de cette série, quand est-ce que David a été vraiment reconnu roi? Mais ce soir, ce que je veux que vous puissiez comprendre avant de partir, c'est à Bethléem, écoute ça, hein, à Bethléem, Dieu te oint pour ta future mission. Dans le monde naturel, dans la fidélité, dans les petites choses, c'est là que Dieu te oint. À Bethléem, lorsque tu n'es pas encore connu, David, j'ai vérifié, David à l'époque n'avait pas encore son visage sur le magazine Forbes. Il n'était pas partout à la télévision, il ne roulait pas en limousine, il n'avait pas ses CD et messages vidéo partout sur Internet, il n'était pas passé dans Faut pas rêver, non. Il était inconnu au bataillon. Il faisait paître les brebis. Il jouait de la guitare pour ses moutons. La plupart des gens, dernièrement j'ai reçu un email véridique, une femme qui m'écrit en disant: Pasteur Bruno, j'ai appris que vous aviez une école biblique, j'aimerais m'inscrire avec formation pasteur option prophète. Option prophète parce que j'aimerais aller dans le monde entier, on gagne plus d'argent. C'est une blague, c'est pas une blague, elle était vraiment sérieuse. Elle veut faire l'école biblique et avoir option prophète pour aller dans le monde entier pour avoir plus d'argent, parce qu'elle croit que les prophètes gagnent plus d'argent. Wow. J'ai écrit LOL. Je n'ai même pas répondu, s'expliquer. J'ai dit laisse tomber, c'est LOL. Ça, c'est quand même chaud. Hein. Écoutez bien ça. David ne prêchait pas devant des foules à Bethléem. Il n'était pas connu dans le monde entier à Bethléem. Il était oublié par son père et ses frères à Bethléem. Il se contentait de faire ce qu'on lui demandait de faire à Bethléem. Mais c'est à Bethléem que Dieu a oint David pour roi. Celui ou celle qui méprise Bethléem se prive de l'opportunité que Dieu recherche pour le oindre pour sa mission. Celui qui n'est pas capable ou celle qui n'est pas capable de régner dans les petites choses comme un bon mari, rentrer chez toi le soir à la bonne heure, servir ton épouse et tes enfants, j'ai reçu un courrier d'un frère en Christ, quelqu'un dans ça, qui me disait: pasteur, je comprends pas ce qui se passe. Tu commences à... Ma femme, elle est super, hein, c'est génial, mais depuis qu'elle est connectée à Dieu, elle s'est déconnectée de moi. Et franchement, j'en ai marre. Je rentre le soir, je fais à manger, je fais le ménage, je m'occupe des enfants, je les mets au lit parce que ma femme passe son temps à prier et à écouter des messages. Je lui dis, il me dit, que dois-je faire? Je lui ai dit, prends-la par les cheveux. Je n'ai pas dit ça. Je lui ai dit, va lui dire que si elle ne sait pas régner à Bethléem, elle se disqualifie de tout ce que Dieu a pour elle. Il est allé faire, là j'ai résumé, hein, il l'a fait. Le lendemain, il m'écrit, il me dit, ma soirée n'était pas très bonne. Je lui dis, pourquoi? Elle a pleuré toute la nuit. Je lui ai dit, c'est pas grave. Pfft, envoyé. Et 3 jours plus tard, il m'écrit en me disant, pasteur Bruno, ça va beaucoup mieux. On a parlé, on a compris des choses, on se repent tous les deux. On va travailler ensemble, on va. Et c'est là que j'ai commencé à voir que ce message-là était dans la saison. Parce qu'il y a tellement de nouveaux chrétiens parmi nous ce soir, tellement même des chrétiens plus anciens qui oublient que pour être vraiment capable de régner avec Christ, il ne faut jamais négliger les choses du monde naturel. Et je finirai ce soir en vous disant que ces étapes-là, écoutez bien, ces étapes-là se renouvellent dans la vie. Il y a des moments où tu penses avoir réussi, tu es pasteur, c'est bien, voilà, tu règnes là. Mais tu peux être appelé à vivre un autre Bethléem pendant que tu règnes à Sion en tant que pasteur. J'explique. L'année dernière, Luc Dumont m'invite à venir avec lui à Maurice et à faire des concerts avec lui. Ma fonction était de le servir. Porter sa valise, faire les réservations, faire son lit, ranger ses affaires, appeler le taxi, porter sa guitare, ranger sa guitare, changer ses cordes de guitare, nettoyer sa guitare, me servir, c'est tout, je faisais que ça. Même si je suis un pasteur dans une église à La Réunion, je peux toujours passer par Bethléem et gloire à Dieu pour cela. Cela signifie à chaque fois, non j'ai compris ça, hein. À chaque fois que Dieu me fait passer par un Bethléem, c'est parce qu'il a une onction toute fraîche pour une nouvelle mission. Merci Seigneur, je vais à Bethléem. Ça veut dire une onction fraîche. Que Dieu va me ramener quelque chose de nouveau. Il y a un truc qui va se passer. Bethléem, c'est le lieu dans lequel les rois sont révélés. Bethléem. The place to be. Ce soir, ma question, c'est: est-ce que Dieu peut compter sur toi? Qui veut savoir, comment savoir si Dieu peut compter sur nous? Pas de piège, hein? C'est très très simple. Si vous voulez savoir si Dieu peut compter sur vous, demandez à votre mari, votre femme. Si quand tu fais des choses tous les jours, est-ce qu'elle peut compter sur toi? Si elle te dit, tout le temps est pareil, même, hein, reste tranquille donc. Et si elle te parle comme ça, t'es cuit. Ça veut dire. Donc ce soir, on va prendre une décision dans l'église. On veut vaincre à Bethléem. On veut devenir tous ceux que Dieu veut que nous devenions. Et la prochaine session, je finirai Bethléem par 8 fruits. Plusieurs points, mais. Il y a plusieurs fruits qui se dégagent de Bethléem. Puissants, très puissants. Et vous allez comprendre semaine prochaine, Dieu voulant, pourquoi est-ce que beaucoup d'entre nous, nous stagnons, il y a comme un mur que nous n'arrivons pas à franchir, comme un plafond qui tape et rien ne se passe de bien, il y a quelque chose qui manque et vendredi prochain, Dieu voulant, je vous donnerai ce qui manque. Mais avant d'aller plus loin, il faut que vous ayez le cœur et que j'ai le cœur ouvert. Est-ce que Dieu peut compter sur moi? Est-ce qu'il faut que je me repente? Est-ce que je peux vraiment compter sur mon épouse? Parce que si moi, en tant que mari, je ne peux pas compter sur Élodie, alors Dieu ne pourra pas compter sur elle. La vérité, c'est que nous fuyons les endroits dans lesquels Dieu peut révéler le roi qui est en nous. Parce qu'un héros ou un roi n'est pas révélé quand tout est facile. Le vrai caractère est révélé quand tout n'est pas facile. Le jour où j'arriverai à monter un meuble en chantant la Marseillaise, les gars, waouh, je serai un héros. Faites des choses cette semaine. Je vous garantis, on est pragmatiques, hein. Faites des choses que vous n'aimez pas faire pour voir si vous êtes capable de faire des choses par amour. Allons faire des choses pour notre voisin, notre quartier. Vous allez voir où je viens ce soir. Si je ne suis pas capable, écoutez bien ça, hein, de faire quelque chose que je n'aime pas par amour pour ma femme, comment pouvons-nous être capables de faire des choses que nous n'aimons pas par amour pour une nation? C'est pour cela qu'on doit apprendre à régner dans la famille et apprendre à surmonter les choses qu'on n'aime pas pour apprendre à faire des grandes choses dans la nation. Si vous croyez que Jésus aimait mourir sur la croix, non. Le jardin de Gethsémané, Jésus ne l'aimait pas. C'est pas un endroit qui était cool pour lui. Il savait que c'était un endroit de souffrance, mais il a accepté de le traverser par amour pour vous et moi. Donc ce soir, Église, Bethléem, c'est la première étape. Si je néglige Bethléem, j'annule l'onction pour la prochaine mission. Je refuse de régner avec Christ. C'est aussi simple que ça. On va sortir, prier ensemble si vous voulez bien quelques secondes. Seigneur Jésus, je te demande humblement.